Dans l'épisode d'aujourd'hui, on est avec les magnifiques Ben et Hugo, du média In Nuts We Trust, sur lequel ils décryptent les filières et les aliments que l'on mange, en particulier quand ils sont ultra transformés et super marketés. Ils font un focus sur les produits de la nutrition sportive et ont même créé un algorithme avec un comparateur pour tout connaître sur ces produits, le scan Nuts. Hugo est ingénieur territorial et Ben ingénieur agronome, et leur message est simple. Il faut envisager l'alimentation comme un tout, en prenant en compte l'impact social, environnemental et santé. Et maintenant, on vous raconte la Terre par le biais de l'alimentation, qui a un pouvoir de levier positif énorme pour la nature et les paysans.
Cette émission audio vous est proposée par Charlotte et Alexandre. C'est nous, deux ingénieurs agronomes, naturalistes et réalisateurs, créateurs du média Oiseau Bondissant. C'est parti.
Et c'est pas forcément un mal, justement, de chercher une profitabilité économique. Il faut juste pas qu'elle transcende, en fait, la raison d'être de son entreprise. Globalement, avoir de l'argent, ça doit pas être un but en soi. Ça doit être une conséquence d'un travail bien fait. Et si possible...
Une externalité positive.
Exactement, finalement. Exactement. Et c'est encore un terme d'agro. Mais justement, c'est ça en fait qui doit être fait. Il y a une très bonne intervention, je pense que ça doit être un des TED les plus vus au monde aujourd'hui, de Simon Sinek, qui est un grand speaker états-unien. Et justement, il parle des Golden Circle en disant comment justement arriver à inspirer les gens et avoir une démarche marketing. Alors lui, c'est très marketing. C'est dire pourquoi tu le fais, comment tu le fais, et ensuite dire ce que tu fais. Mais le pourquoi, ça doit être jamais... pourquoi j'ai envie de gagner des thunes ? Oui, c'est l'ère de la guerre. Mais c'est une conséquence, encore une fois, c'est une externalité positive, un travail qui doit être bien fait. En faisant en sorte de faire aujourd'hui attention à l'environnement, aujourd'hui, en fait, ça devrait être la base de tout business pour assurer la pérennité du business, non seulement la pérennité de ce qu'on fait, mais demain, si on ne fait pas attention un tant soit peu, justement, au climat, à la biodiversité, et également à l'aspect social, l'entreprise va mourir pour plusieurs raisons, parce que les gens, en fait, vont commencer à se désintéresser d'une entreprise qui ne fait pas attention à l'environnement ou aux gens en général. Et également, si demain, on ne fait pas attention au fait que si on continue à cultiver comme on cultive aujourd'hui du tournesol, du soja ou du cacao, demain, en fait, avec le dérèglement climatique, avec la perte de biodiversité, on n'arrivera plus à planter, en tout cas plus dans les mêmes conditions, ces matières premières. Et ça, encore une fois, les entreprises qui le prennent en compte maintenant, avec des données économiques, permettent justement demain d'être encore en lice et d'être encore même assez fortes.
Tu avais une formule que j'ai entendue lors d'une de tes interventions ou d'un podcast. C'était les entreprises qui investissent dans une formation développement durable ou transition dans 100 employés. Et peut-être qu'ils vont demain, ils sauveront 1000 emplois parce qu'ils seront toujours là pour employer des gens, quoi.
D'une certaine manière, c'est un peu la maxime ou l'image du poisson et du pêcheur. C'est-à-dire que tu donnes un poisson à une personne, elle se nourrira un jour. Tu donnes la canne à pêche, elle se nourrira toujours. En allant plus loin là-dessus, c'est tu donnes la manière en fait aux gens en fait d'appréhender le monde et de mieux comprendre en fait les enjeux et les problématiques. Les gens arriveront à mieux en fait prendre conscience des choses. Et c'est ce qui a été fait il y a quelques années. Malheureusement, c'est resté caduque, mais le gouvernement justement avait fait une grande session avec la société civile justement pour proposer en fait des solutions très opérationnelles d'un point de vue environnemental, social, économique.
Donc, tu parles de convention citoyenne pour le climat.
Exactement. Et le souci, c'est que, du coup, ce qui était très très intéressant, c'est que c'était des personnes qui étaient très néophytes, voire même profanes complets sur ces sujets-là. Ils ont eu un peu de formation et d'éducation, et en fait, ils ont vu qu'il y avait une vraie nécessité d'aller vers un changement presque dogmatique sur certains secteurs. Encore une fois, cette convention, ce qui est très dommage, c'est retombé un peu comme un soufflet. Mais quand bien même aujourd'hui, dans les entreprises privées, tu fais de la formation et de l'information aux collaborateurs dans des très grosses boîtes ou même des plus petites boîtes, justement, ça insuffle une énergie différente. Et en allant plus loin sur l'image, c'est même pas donner une canne à pêche, c'est plutôt donner les plans de la canne à pêche pour faire en sorte que, bon gré mal gré, en fonction de s'il y a une mer agitée ou s'il y a des plus ou moins petits poissons, justement, le conscient collectif, la société civile, soit capable de mieux appréhender tous les sujets, quels qu'ils soient.
On en arrive un peu à ce que tu as appelé ton side project tout à l'heure, votre grand projet bénévole, mais qui est dédié à la société, quoi, aux gens, pour leur santé, qui s'appelle In Nuts We Trust, donc un nom marrant et qui n'est pas forcément facile à prononcer, mais dont tout le monde se souvient, je pense. Et je voulais commencer par qu'est-ce que c'était votre pourquoi avec les nuts ?
Alors, on nous a posé la même question hier pendant la conférence. En fait, notre objectif, nous, c'est... alors, on aime bien dire ça, mais c'est semer des graines un peu pour un monde meilleur, tu vois. Donc, c'est-à-dire que... Alors, semer une graine, c'est au sens de l'idée, finalement. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est donner des clés de lecture, en fait, aux consommateurs pour mieux consommer, mieux appréhender, en fait, l'acte d'achat, pour déclencher plutôt un achat responsable. Et donc ça, ça passe par la réflexion. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est voilà, de nous dire que finalement, bah, y a des gens, ils se posent pas de questions quand ils achètent quelque chose. Et ben là, demain, ils vont justement, avant d'acheter quelque chose, ils vont se dire « Ah, mais tu vois, j'ai entendu ça, peut-être que je vais changer de produit ou en tout cas, je vais reconsidérer en fait mon besoin. » Et nous, c'est le curseur, il est placé là, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir un regard objectif parce que notre but, ce n'est pas de dire ça, c'est bien, ça, c'est nul. C'est juste de voilà, susciter en tout cas l'intérêt, la réflexion au changement chez le consommateur. Et si on arrive à faire ça, bah, en fait, on a rempli notre mission. Et donc, c'est pour ça qu'on a monté un site web, hein, une plateforme où on propose des articles, tout un tas de publications qui sont sourcées, qui sont détaillées. Sur les réseaux sociaux aussi, on est présent et on alors c'est du contenu plus vulgarisé de quelques secondes, mais pour autant, l'idée, c'est vraiment ça, donner des clés de lecture aux consommateurs pour analyser les étiquettes, décrypter les allégations nutritionnelles et comprendre en fait que quand on achète un produit, on achète le monde qui va avec. Voilà, c'est un peu notre fil rouge, c'est ça.
Ouais, bah j'ai noté sur votre site internet justement des termes forts, c'est vous voulez comprendre et analyser l'empire alimentaire, vous voulez décrypter le marketing alimentaire et vous voulez traiter la consommation au sens large. Ça résume bien, je pense, le...
Oui, voilà, c'est à peu près ça. Alors, c'est des mots et des termes hein, qu'on travaille dessus avec Ben depuis 2018 maintenant. Et plus ça va, plus on affine, en fait, les mots. C'est-à-dire, on a un champ lexical, effectivement, qui s'étoffe. Mais voilà, on affine des terminologies, tu vois. Par exemple, récemment, on a mis en place... on a trouvé un nouveau nom, c'est la superconscience. En fait, c'est un mot qui résume, finalement, le fait qu'on doit se positionner en tout cas avoir une vision systémique parce que il y a pas juste l'aspect nutritionnel dans un produit, il y a tout ce qui va autour. Donc ça fait lien et ça fait sens avec quand on achète un produit, on achète le monde qui va avec. Mais l'idée c'était de mettre un mot là-dessus pour faire prendre conscience aux gens qu'ils avaient tout intérêt à s'intéresser et à s'éveiller par rapport à ça pour comprendre que finalement acheter quelque chose c'est un acte politique. Parce que acheter, c'est voilà, décider que ben, voilà, je vais mettre ces sous, et ça va aller soit au producteur, soit dans une grosse firme agroalimentaire, soit, tu vois, c'est ça en fait le truc.
Je pense que c'est vraiment une caractéristique qui vient de votre formation d'ingénieur aussi. C'est bah, d'ailleurs la vision systémique, prendre du recul pour voir le système, c'est complètement des mots-clés d'ingénieur. Et c'est ça aussi que vous apportez dans le monde de la nutrition et de la santé, quoi.
Bah, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans le monde de la nutrition, ce que Innate Sweet Trust justement, c'est un projet qui est né en prenant la clé d'entrée de la nutrition sportive. Pour recontextualiser un petit peu les choses, du coup, on essaye de semer des graines, mais surtout en fait, ça fait écho à notre propre vécu. On fait tous les deux avec Hugo du CrossFit depuis maintenant quelques années. Dans toutes les salles de sport en France, ou même surtout à l'étranger, de fitness, de CrossFit, il y a beaucoup en fait l'utilisation de compléments alimentaires, de protéines en poudre, de shakers. Et parfois, c'est un peu dommage parce que on va avoir des très bons athlètes, des personnes aussi qui vont essayer de s'entraîner tous les jours et qui vont vraiment dédier une grande partie de leur journée à des entraînements parfois de très haute intensité. Mais moins faire attention en fait à leur alimentation ou se dire que justement vu qu'ils ont pris certains compléments ou certaines protéines en poudre, ça va leur permettre de mieux récupérer et de mieux performer. Et c'était justement ce qui nous a poussé en fait à créer ce média pour essayer de rationaliser un petit peu le bol alimentaire des gens et rationaliser aussi ces grands préceptes, ces grandes idées reçues, ces grandes incantations qui sont finalement partagées par certaines firmes, certains industriels, mais également certains influenceurs qui peuvent avoir finalement des intérêts qui sont un peu mêlés avec encore une fois des entreprises ou juste une méconnaissance des sujets. Et quand on parlait de la super conscience, c'est vraiment le plus gros enjeu aujourd'hui, c'est que quand on parle d'un produit alimentaire, a fortiori d'un produit de la nutrition sportive, ben en fait, on a en ligne de mire la nutrition. Mais on occulte en fait tout le reste. Deux protéines en poudre vont avoir sur le papier les mêmes qualités. Dans la réalité, ce ne sera pas du tout, du tout la même chose. Déjà, si on part d'un enlivement vrai ou d'une poudre, bah, c'est différent. Et même dans deux poudres différentes, on va avoir des ingrédients qui sont différents, des manières d'extraire les molécules qui sont les principes actifs qui sont très différents. Et de fait, du coup, des bienfaits ou des méfaits qui sont également différents. Et c'est ça la super conscience, c'est de se dire... On arrête en fait d'avoir cette focalisation essentiellement sur la partie nutritionnelle et on essaye de prendre en compte d'autres impacts, les impacts de la santé, parce qu'il faut décorréler la santé de la nutrition, il faut prendre en compte également les impacts de l'environnement. Qu'on le veuille ou non, forcément on est dans un système, forcément en fait l'environnement au sens très large du terme va impacter positivement ou négativement ce qu'on va manger et notre état de forme, état de santé. Et également les hommes et femmes en fait qui travaillent à l'élaboration de ce produit, aujourd'hui en 2023 avec tous les réseaux sociaux qu'on a et tous les moyens de communication et d'information, aujourd'hui d'une certaine manière pour une entreprise il est presque criminel d'occulter en fait ces personnes qui travaillent de temps en temps dans des conditions qui sont désastreuses dans les plantations, enfin des personnes qui sont mal payées, sous-payées, du travail forcé, des gens qui épandent des pesticides mais sans aucune protection. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est quand même problématique. Et sans faire d'hyperculpabilisation du consommateur, c'est aussi au consommateur. Il y a aussi un devoir en fait d'information et de formation un peu continue sur ces sujets-là pour éviter d'acheter justement des produits qui peuvent être dommageables, encore une fois, pour l'environnement et les gens.
Ça, c'est un petit peu le concept One Health qui a été développé par l'ANSES. Donc, c'est l'Agence nationale de sécurité alimentaire, l'environnement et le travail. Donc, bon, évidemment, c'est un organisme que personne ne connaît dans le grand public. En résumé, ce que tu viens de dire, c'est... En s'attaquant à l'alimentation, en s'intéressant pour de vrai à l'alimentation, comment c'est produit, est-ce que ça va faire du bien à ma santé, etc., on va avoir un impact sur la santé publique en général, sur l'environnement, sur les travailleurs, sur la biodiversité qui entoure tous ces systèmes.
En fait, c'est presque un cycle, c'est-à-dire que ce qu'on va manger va... d'une certaine manière, conditionner notre santé. Donc forcément, si on consomme exactement ce qu'on doit en termes de macro et de micronutriments, on a des bons apports en fonction de nos besoins réels, en fonction de notre pratique sportive ou juste notre état de forme et nos besoins physiologiques, bah, d'une certaine manière, si on arrive à bien s'alimenter, avoir les bonnes vitamines et les bons minéraux, on va avoir du coup une santé, si tout va bien, qui sera pas mal. Si on est en bonne santé, on a besoin de prendre moins de médicaments. On a besoin aussi parfois de, si on a une alimentation qui est un peu raisonnée, on va moins surconsommer, que ce soit en matière de contenu de ce qu'on va de l'alimentation, mais également de contenant, moins d'emballage, moins de packaging. Donc, d'une certaine manière, notre alimentation conditionne notre santé et qui va aussi également façonner notre environnement. Et si notre environnement est globalement assez sain, bah pareil, notre alimentation le sera tout autant. Donc ça peut alimenter un cercle vertueux. Le corollaire, c'est que si justement on se nourrit sans faire vraiment attention, enfin littéralement on se nourrit, on s'alimente en faisant juste attention aux calories et pas vraiment à tout ce qui entoure donc la matrice, l'intérêt nutritionnel ou sanitaire de nos produits, la piètre qualité de cette alimentation va détériorer notre santé, on va potentiellement être plus malade et en tout cas avoir un état de forme qui sera un peu moins intéressant, ce qui va être dommageable pour notre environnement et pareil, bah là on alimente un cercle vicieux. Et c'est ce qu'on essaye de montrer. Alors effectivement, il y a la théorisation de One Health, ça a été plus ou moins pris par certaines grandes sociétés justement qui essayent d'aller vers ça. Alors, de manière plus ou moins intéressante, plus ou moins pertinente. Et nous, c'est ce qu'on essaye de montrer entre guillemets, au commun des mortels, qui n'a pas forcément ces notions-là, qui ne veut pas forcément non plus les avoir, en particulier dans un secteur qui est l'alimentation sportive, qui est à parfois des années-lumière en fait, de ses préoccupations environnementales et sociales.
Ouais, ce cercle vertueux, donc on peut considérer qu'on a déjà les savoirs pour faire les choses correctement, pour s'en sortir. Mais il est complètement parasité, ou il est coupé, il est déséquilibré par des termes comme fort, comme j'ai utilisé tout à l'heure, et que vous utilisez sur votre site, donc l'empire alimentaire, le marketing alimentaire, qui vient un petit peu complètement troubler le consommateur dans les choix qu'il peut faire.
Bah, en plus, moi, ce que je trouve dommage, finalement, c'est, parce qu'on est pratiquants de CrossFit tous les deux, depuis quand même pas mal d'années maintenant, en fait, ce que je trouve dommage, c'est de faire attention, de faire un sport comme le CrossFit pour justement être en meilleure santé, avoir un physique à l'épreuve de la vie, comme ils aiment bien dire, etc. Mais à côté de ça, de manger strictement n'importe quoi. Alors, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais c'est fou, en fait, de voir que on soit à l'entraînement ou dans des compétitions d'envergure départementale, régionale ou nationale, en fait. Enfin, il suffit juste de regarder les athlètes s'alimenter et en fait, t'hallucines au quotidien, quoi. C'est-à-dire que c'est que des produits marketés. Enfin, voilà, moi j'ai fait des compètes où t'as les gens, ils mangent, ils vont manger en fait des bonbons, des gommises là, des burgers dans tous les sens, des canettes de plein de boissons en fait édulcorées. Enfin voilà, il y a pas forcément consommer comme ça de temps en temps, il y a aucun problème, mais si c'était de temps en temps, ça irait. Mais en fait, c'est pratiquement quotidiennement. Et c'est là en fait où je trouve vraiment ça dommage, parce que il y a tout un tas d'autres produits qui existent et qui pourraient en fait suffire, en commençant par manger vrai, c'est-à-dire essayer de mettre du bon sens dans son alimentation
et pas prendre de raccourcis avec voilà. Les compléments ou les substituts.
Voilà, exactement. Et puis après, effectivement, dans le cadre d'une pratique sportive, si on pratique ça intensément plusieurs fois, donc la complémentation sportive, elle a une réelle plus-value, mais à condition aussi de choisir des choses qui sont réellement bénéfiques. Sinon, ça a pas d'intérêt. Et là, le problème, c'est qu'on se retrouve, et là, les marques, elles l'ont très bien compris, avec des gens qui commencent cette pratique sportive et qui font comme leur influenceur préféré ou comme leur champion préféré, alors que finalement, ils n'ont pas la base qui est l'alimentation, le vrai bol alimentaire équilibré sur l'ensemble d'une semaine. Et c'est ça qui est dommage, parce que, en fait, ces choix qu'ils font, ces gens-là, c'est des choix qui ont un impact sur l'environnement et donc sur la planète, en fait. Et c'est notre dénominateur commun. Donc moi, si vous voulez, ça m'embête un peu d'essayer, en fait, de faire en sorte de bien faire les choses pendant que mon voisin fait mal les choses. Mais le problème, c'est que qui fait mal, ça a un impact direct sur moi, tu vois. Et c'est ça que donc du coup l'objectif, c'est de prendre de la hauteur et comprendre que finalement tout ce qu'on fait, ça a un impact sur nous mais sur les autres, et que voilà, si on est cool, si on est bienveillant, il faut quand même faire un minimum attention.
C'est ce qu'on essaye aussi de faire en déconstruisant certains messages marketing. C'est pour ça qu'on parle d'empire parfois, ou même de jungle, parce que c'est aussi la loi de la jungle. Et on essaye de nous faire croire, enfin je dis on, justement certains influenceurs et surtout certains marketeurs, que la voie de l'amélioration de la performance ou de la recherche en fait de la meilleure récupération passe forcément par un acte d'achat. Un acte d'achat d'un produit, une poudre, un complément, avant juste de parfois de se reposer, de faire un jour off, d'améliorer en fait la qualité de son sommeil, ou juste de manger un peu plus de fruits et de légumes.
Ouais, c'est le même principe que d'acheter un robot massant parce qu'on a mal au dos plutôt que de faire des étirements.
C'est vraiment ça. C'est que là, on parle vraiment, là, on reste sur la partie nutritionnelle, mais ce que tu dis, c'est vraiment systémique et c'est symptomatique aussi de ce secteur-là. Et c'est ultra intéressant de le voir sur le marché du sport, parce que autant sur le marché un peu mainstream de l'alimentation classique, on le voit un peu moins, et puis surtout le législateur fait un peu plus attention, la répression des fraudes est un petit peu plus, un peu plus active et fait un peu plus de veille. Sur la nutrition sportive ou le sport en général, c'est vraiment une loi de la jungle. Donc effectivement, on va voir des balles massantes, on va voir des rouleaux, des rouleaux vibreurs, on va voir des électrodes qu'on peut se poser, on va voir de la lumière rouge ou blanche pour activer plus ou moins. On va croire qu'on est des plantes et qu'on fait de la photosynthèse. Enfin, on se pose des trucs comme ça. Même avec Hugo, c'est un petit truc qu'on a en... Une petite blague qu'on a ensemble, mais demain, si il y a une marque qui vend un plug anal pour en disant que tu vas courir plus vite, honnêtement, ça marchera.
Pour remettre un petit peu de contexte, là, vous parliez du fait de faire du crossfit. Donc ça, c'est un autre point qu'on a en commun, en plus des études à l'ISTEM. C'est nous aussi, on pratique ce sport. Donc c'est un sport qui est très exigeant, qui est très complet, qui généralement réunit beaucoup de gens qui font très attention à leur physique, mais surtout d'un point de vue de la performance, beaucoup plus que le bodybuilding, je pense, en général. Et pour vous peindre un petit peu le décor, quand on arrive dans une salle de crossfit, donc on arrive, on a une personne qui est en train de prendre un shaker de protéines pendant son entraînement, une autre qui prend des BCA, donc des acides aminés, une autre qui est en train d'utiliser justement les électrodes pour récupérer plus vite. Dans le fond de la box, donc on appelle ça une box de crossfit, une salle de crossfit, on a un frigo FitEd, donc une boisson énergisante accélérée à la récupération. Donc on est en permanence, en tant que sportif, assailli par le marketing et par prenez ce produit, vous allez récupérer mieux, vous allez être plus performant, vous allez être mieux. Et est-ce que vous pensez, justement, en vous attaquant à ce public qui sont les sportifs, surtout les sportifs de crossfit en l'occurrence, ou de triathlon comme vous pratiquez aussi, est-ce que vous pensez que vous allez réussir à parler au grand public en général?
Je ne pratique pas le triathlon. Non, par contre, ce que je voulais dire, et c'est là où c'est paradoxal, c'est que ces gens, ils achètent un abonnement, okay, ils achètent plein de produits qui coûtent une blinde, hein, faut se le dire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui achètent des programmations supplémentaires, parce que tout le monde voilà, a des programmations spécifiques. Donc, c'est-à-dire qu'on paye une programmation spécifique en plus d'un abonnement à la salle. Donc, normalement, l'abonnement que tu as à la salle a une programmation, donc c'est censé suffire. Donc, effectivement, il y a tout un tas d'artifices avec des balles massantes, des rouleaux massants, etc. Voilà. Et par contre, personne, enfin, ou très peu de gens font de la mobilité. Très peu de gens finalement commandent des plans diète à l'aide de professionnels, des nutritionnistes ou des diététiciens, etc.
Et la mobilité, donc c'est de la souplesse en fait,
ouais.
Travailler sa
souplesse. Ouais, voilà. Et peu de gens font des massages de récupération avec des kinésithérapeutes ou vont voir des ostéopathes, etc. Finalement, c'est comme si on reprend la chaîne de valeur d'un produit, mais là c'est la chaîne de valeur du sportif. Finalement, on s'intéresse juste à la notion d'entraînement et de performance, et en fait on occupe tout ce qui est nutrition, récupération, alors qu'il y a tout un tas de professionnels de santé. Et en plus, ce qui est là où c'est paradoxal, c'est que dans les box de CrossFit, il y a quand même pléthore de kinés, etc. Voilà. Et pourtant, ça choque personne, mais personne, finalement, on leur dit je me ferais bien une routine une fois par mois pour avoir un massage de récup, voir faire un petit bilan qui va pas au niveau de la posturologie, enfin des choses comme ça. Et c'est là, en fait, où je comprends pas, c'est que c'est CrossFit, produits, accessoires. Et en fait, c'est tout, quoi. Tu vois, ça, on pourrait presque le résumer avec ces trois mots. Et je trouve ça vraiment dommage.
Et honnêtement, il y a des chances qu'on puisse s'adresser au grand public, entre guillemets, en bénéficiant un peu de l'inflation et de la crise. Je m'explique. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, on voit qu'on a de moins en moins de pouvoir d'achat. Comme disait Hugo, un abonnement dans une salle de CrossFit, déjà, c'est assez dispendieux. C'est beaucoup plus cher qu'une salle classique. Rajouter à ça un plan d'entraînement qui va de 30 jusqu'à 150 euros par mois pour justement, encore une fois, les programmations qui sont les plus complètes. On rajoute des compléments alimentaires, encore une fois, qui peuvent être très chers, pas forcément pour des bonnes qualités. Et on a des très bons compléments alimentaires aussi, mais qui, eux aussi, coûtent une blinde. Donc, mis bout à bout, en fait, on arrive quand même à un reste à vivre qui s'amenuise. En particulier si les matières premières continuent d'augmenter et que le coût de la vie continue d'augmenter. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire, et peut-être qu'à ce moment-là, les gens vont commencer à se dire « bah mon reste à vivre commence à s'amenuiser, peut-être que je vais faire des choix différents ». En arrivant justement à leur proposer des solutions qui sont réellement plus durables et surtout, de temps en temps, qui sont largement moins chères. Le sommeil, c'est gratuit. Mais juste se dire « je vais faire attention, je vais couper mon téléphone une heure avant de m'endormir », je vais faire en sorte peut-être d'être moins devant les écrans, d'arriver à avoir un sommeil de qualité. Je vais mettre en place justement une petite routine chez moi pour être un peu plus maximiser en fait les bienfaits de mon sommeil. Je vais être largement plus performant, largement plus que si justement tu parlais de BCA ou de boissons de récupération, que si je prends des boissons qui, de temps en temps, apportent pour certaines que des bienfaits minimes, voire de temps en temps, c'est juste de l'eau avec un peu de sirop d'agave et effectivement, il y a des acides aminés, mais on dédose tellement minime que l'action est finalement assez, encore une fois, très minime, voire inexistante. Donc, on pense qu'on va réussir à toucher un public et aujourd'hui, on a quand même une forte communauté qui nous suit et qui est intéressée justement de savoir quoi changer pour être mieux et surtout, en fait, rationaliser complètement en fait, leur manière d'acheter des choses et d'une certaine manière de faire des économies.
Pour rattraper un petit peu les auditeurs qui peuvent peut-être se demander mais pourquoi on fait un podcast sur la nutrition des sportifs et pourquoi on s'est retrouvé, on l'a déjà bien évoqué avec le principe de One Health ou de super conscience et de se rendre compte que son alimentation c'est à la base de tout d'un point de vue environnemental, réchauffement climatique mais aussi biodiversité. Et c'est difficile de s'intéresser à l'agriculture sans par voie de conséquence forcément s'intéresser à la nutrition. Et aujourd'hui, la nutrition ou la diététique, on peut l'appeler comme on veut, hein, j'imagine, c'est la foire d'empoigne un petit peu. C'est chacun a sa propre idée. Il y a ma grand-mère qui va me dire le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Il faut que tu manges des céréales et des fibres. Il y a Gueuleton qui est sur Instagram qui va dire on va manger de la viande à foison. On a eu énormément de modes, d'autant plus dans le CrossFit. Donc on raccroche un petit peu les wagons. Et on a eu la mode du paléo, la mode du vegan. Il fallait manger des œufs, il ne faut plus en manger, mais finalement il faut en manger. Voilà. Comment vous faites pour vous y retrouver? Et surtout, comment est-ce que vous faites pour faire ce travail énorme de sourcer tous les conseils, tous les avis que vous donnez sur le site?
Déjà, moi, alors niveau perso, comment je fais pour m'y retrouver par rapport à ça? C'est-à-dire que moi, je pars du principe très simple, que je connais mon métier, donc j'ai des compétences dans mon métier, Et après, mes compétences, elles s'arrêtent là. Après, je peux m'intéresser. Je m'intéresse à la nutrition, au sport, etc. Donc voilà, je lis des bouquins, on écrit des articles avec Ben, etc. Pour autant, moi, mon plan d'entraînement, c'est un coach sportif qui me le fait. Donc, c'est-à-dire que c'est un professionnel et c'est son métier. Je vais tout à l'heure, d'ailleurs, en fin d'après-midi, chez le kiné, parce qu'il faut que je fasse un massage de récupération, parce que j'ai une compète ce week-end, parce que voilà, il va me manipuler, etc. Mais c'est pas moi qui vais le faire, ou c'est pas quelqu'un qui n'est pas compétent qui va le faire. Et demain, si j'ai un plan diète à faire, je vais pas me le faire. Alors, même si j'ai des compétences, je vais savoir quoi faire, comment prendre, etc. Certaines choses. Mais si je veux faire quelque chose vraiment de très précis avec une vraie valeur ajoutée, je vais encore aller voir un professionnel. Et moi, je fais comme ça avec tout. Voilà. Donc, je demande conseil auprès de gens qui sont spécialisés en fait là-dedans. Maintenant, par rapport nous à ce qu'on fait sur Innate with Rest, donc c'est on donne une lecture de la littérature en fait scientifique sur un sujet. Donc, on fait un parangonnage, si tu veux, en termes français, de l'ensemble de la littérature actuelle sur un sujet donné. Et donc, on essaye d'être objectif par rapport à ça. Donc, par exemple, on prend la protéine. Bon, bah voilà, sur la protéine en poudre, voilà à l'heure actuelle l'état des connaissances et voilà ce qui se dit. Et nous, c'est ce qu'on essaye, enfin, c'est ce qu'on retranscrit en fait sur notre site en mettant toutes les sources. Finalement, on n'a pas le curseur, il est là et c'est important parce qu'on ne dit pas, on donne presque pas notre avis en fait. C'est juste qu'on traduit un peu l'état de l'art à un instant T. Et surtout qu'en plus, on le dit hein, à nos utilisateurs, c'est-à-dire que ça évolue au fil de l'eau. C'est pour ça que tous nos articles, ils sont augmentés. Enfin, on essaye parce qu'on n'est que deux à bosser dessus, mais on les met à jour au fil de l'eau, etc. Parce qu'en fait, tout change. Mais pour autant, voilà, à un instant T, voilà l'état actuel des connaissances. Et on fait ça avec tous les sujets qu'on traite. On se positionne pas, on n'a pas du tout la science infuse. C'est une proposition, et c'est ce qu'on dit. Il y a plein d'autres propositions, mais nous, c'est la proposition et c'est notre compréhension du monde actuel qu'on diffuse sur notre site. Et c'est ça un peu qui nous motive et qui fait que bah finalement, enfin c'est cette objectivité là qu'on essaye d'apporter et qu'on divulgue en fait sur le site.
Et puis c'est aussi la complémentarité de nos expertises et expériences professionnelles, c'est que Hugo va arriver à avoir justement via son enfance et son milieu familial et social, va arriver avec énormément en fait de connaissances sur des sujets sylvicoles, agricoles. Moi de part pareil, mon background en agronomie et puis par en fait la somme des expériences que j'ai vu sur plusieurs terrains différents, des terrains d'outre-mer, des terrains français, des terrains totalement étrangers, des problématiques et des enjeux. Et finalement, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est d'arriver à raccrocher tous les wagons, à connecter tous les points justement des produits, en prenant l'entrée encore une fois de la nutrition sportive qui est aujourd'hui un peu l'enfant pauvre d'une certaine manière du développement durable dans l'alimentation. Surtout en fait pour un public qui a vraiment dramatiquement besoin en fait de savoir comment s'alimenter, encore une fois pour améliorer la performance et également sécuriser une bonne récupération. Et maintenant on essaye aussi du coup, comme disait Hugo, dans son quotidien il va essayer d'aller voir des professionnels qui sont experts dans leur sujet. Nous, on a des domaines d'expertise, mais on n'est pas légitime, surtout on n'a pas envie de l'être. Donc on va aller faire un peu justement le tour de nos amis, pairs ou juste partenaires, des chercheurs, des ingénieurs, des médecins, des professionnels dans justement, encore une fois, dans l'alimentation, dans la santé, dans l'agriculture. D'une certaine manière, un, pour s'informer, et de deux, pour challenger ce qu'on dit ou ce qu'on écrit. Parce que de temps en temps, on peut avoir des raisonnements. On est obligé de faire la vulgarisation et d'avoir des raisonnements qui sont un peu plus simplistes par rapport à la complexité de la réalité. Mais il ne faut pas non plus que ce soit que cette simplification devienne trop simpliste et qu'on tire le trait trop rapidement. Et donc, c'est un gros travail qu'on fait, qui n'est pas forcément visible, parce que l'iceberg émergé, ça, c'est juste quelques vidéos de 30 secondes sur les réseaux sociaux et des gros articles de peut-être des dizaines, littéralement des dizaines de pages, mais c'est de temps en temps des semaines de travail. Et quand on écrit quelque chose, on fait en sorte que ce soit pour nous. Le site doit être une bibliothèque, ne serait-ce que pour nous. On l'utilise en tant que ça sur un sujet. C'est l'état de l'art fait à jour sur ce qui se dit sur un sujet, une filière, un produit. Et donc du fait, si on veut que ce soit bien pour nous, et ben c'est la même, ça doit être bien pour les autres.
Pour rattraper tous nos auditeurs et puis sans tomber dans le biais du magazine de santé ou du magazine avoir le ventre plat pour la plage cet été, Est-ce que vous pouvez nous donner quelles seraient les bonnes pratiques d'un côté pour les sportifs ou les grands sportifs et de l'autre pour monsieur et madame tout le monde ?
Alors pour le côté sportif, alors en tout cas moi c'est ce que je prône à mon échelle, mais je pense que c'est en tout cas un bon point de départ. C'est déjà d'optimiser son alimentation. Donc son bol alimentaire, donc c'est-à-dire représentatif sur une semaine, donc du lundi au dimanche. Donc c'est essayer de manger des produits de saison, des produits peu ou pas transformés dans la mesure du possible, et essayer de faire ça en circuit court, c'est-à-dire acheter voilà des produits nutritifs. Là, il y a un petit bémol en ce moment, c'est qu'il y a quand même la réalité de la vie et du coût de la vie. Ben l'a évoqué avec l'inflation. Donc il y a aussi, en tout cas moi, depuis quelques mois, il y a ça qui rentre en considération. Donc c'est-à-dire que de la viande rouge, j'en achète plus beaucoup, enfin plus autant qu'avant. Donc j'aime mieux manger un bon morceau de viande une fois au resto de temps en temps plutôt que d'acheter, tu vois, des steaks Charal 2-3 fois par semaine. Ça c'est la réalité, mais voilà, pour autant, ça fait aussi découvrir d'autres produits à cuisiner et je trouve ça plutôt sympa. Et donc ensuite, une fois qu'on est OK avec son alimentation, il faut voir ce qui est possible de faire par rapport à notre activité physique. Donc effectivement, moi, je pratique du crossfit 4, 5, 6 fois par semaine parfois, de manière assez intensive, comme des milliers de personnes. Donc, et le coût de la vie fait que, en termes de prise de muscles, en termes de performance, ou en tout cas, tout simplement de maintien, parce que j'ai une forte dépense calorique, je vais économiquement pas pouvoir aller, en tout cas, chercher toutes ces calories dans l'alimentation vraie. Donc, c'est-à-dire locale, de saison, fraîche, etc. Donc, là, c'est intéressant d'aller sur de la complémentation alimentaire, mais de la complémentation alimentaire qui sert vraiment à quelque chose, qui a un réel bénéfice. Donc, pour moi, c'est effectivement, ça peut être de la whey native, donc de l'isolat de whey natif. Je trouve que c'est un complément intéressant. Et ensuite, ça va être oméga 3, vitamine D, un peu de créatine aussi. Donc la créatine n'est pas un produit dopant, les gars. Voilà.
Donc si je fais une métaphore, ton métier aujourd'hui, influencé vers le développement durable dans les grandes entreprises, dans les grands groupes, est-ce que ce ne serait pas un peu du lobbying, mais du lobbying positif pour une fois, du lobbying durable vers une transition ? Et est-ce que tu peux nous montrer, un peu faire la démonstration de ce que peut être un pouvoir de levier en faisant changer au moins un tout petit peu ces grosses entreprises ? Et moi, l'exemple qui me parle le plus, c'est l'industrie laitière.
Alors effectivement, tu mets le point sur quelque chose de très important. C'est alors le terme lobbying, effectivement, aujourd'hui, encore une fois, il peut être galvaudé et utilisé, en tout cas dans le conscient collectif, pour quelque chose d'assez négatif. Ce qu'on fait avec mes collègues, mes partenaires, mes pairs, c'est plutôt d'essayer d'influencer et de montrer en fait qu'on peut aller vers des bonnes pratiques économiques, des bonnes pratiques agricoles, des bonnes pratiques commerciales, encore une fois, qui sont les mieux disantes. En termes de consultants, en tout cas qui sont les moins impactantes pour, encore une fois, la santé, la planète et les personnes qui travaillent dans ces produits-là. On essaye, et c'est ce qui se fait aujourd'hui, on voit qu'on va avoir des réglementations qui vont être de plus en plus, de moins en moins permissives et de plus en plus fortes, justement, alors pas contre les entreprises, mais en tout cas pour amener justement ce changement dogmatique des entreprises. Je fais référence notamment aux futures réglementations européennes concernant la déforestation, concernant le droit du travail et justement l'arrêt, en tout cas l'évitement autant que faire se peut, du travail forcé, et également aller vers les réglementations, vers un devoir de vigilance, de due diligence un peu raisonnable à l'échelle, alors oui, de la France, mais également de l'Europe et plus largement, si possible, de tous les pays du globe, en tout cas ceux qui veulent jouer le jeu et qui, d'une certaine manière, auront de moins en moins le choix que de jouer le jeu. Donc aujourd'hui, finalement, tout concorde, tout s'aligne et c'est plutôt bien. Bon, c'est un peu tard parfois, mais on a eu d'une certaine manière une prise de conscience du consommateur grâce à certains influenceurs, grâce à d'une certaine manière aussi certaines émissions du type Cache Investigation. On peut reprocher ce qu'on veut à Lise Lucet, mais d'une certaine manière, elle fait se poser des questions. Certains reportages sont un peu à charge, mais quand bien même, on peut se poser des questions. Ensuite, on va avoir les certifications qui vont justement permettre d'une certaine manière d'apporter aux consommateurs ou même aux entreprises une certaine soit légitimité, soit de permettre de se rassurer et de se dire qu'on, sur certains critères, alors l'exhaustivité n'est pas forcément là, c'est pas toujours la panacée, mais sur certains critères, on a une certaine preuve de durabilité des pratiques. Et maintenant, le législateur qui commence à se dire qu'il faut faire changer les pratiques pour faire en sorte qu'on puisse toutes et tous mieux vivre dans notre quotidien et aussi vivre de nos propres productions et essayer d'être de moins en moins impacté pour éviter, si possible, qu'on fasse comme les dinosaures et qu'on soit là pour le coup. Eux, ils n'avaient pas le choix. leur extinction, en fait, c'est pas eux qui l'ont voulu. Nous, la sixième extinction de masse, il y a des chances qu'on soit quand même très acteurs. Et d'où le fait que j'ai choisi d'essayer de travailler avec potentiellement les entreprises qu'on pourrait considérer comme les moins bons acteurs, on va dire.
Ouais, les méchants, tu peux le dire. Voilà.
Bon, sans être manichéen, effectivement, c'est pas les meilleurs acteurs sur les marchés, c'est ceux qui vont polluer le plus, mais parce que c'est des entreprises qui sont multinationales, qui ont énormément en fait d'actions un peu partout dans le globe, sur des secteurs et sur des filières qui sont fortement émettrices en gaz à effet de serre, donc le secteur des produits laitiers, on va en parler, mais ne serait-ce que les races bovines, vaches à viande, et puis même certaines protéines végétales ou certaines juste ressources végétales qui peuvent venir de l'autre bout du monde et qui sont issues de la déforestation. Voilà. Sur les produits laitiers, c'est un vrai sujet. Voilà, forcément, sans cristalliser certaines choses dessus, on est quand même sur un secteur où on a énormément fait de la communication en disant qu'il fallait manger plusieurs laitages, produits laitiers dans la journée. On a tous en tête, justement, les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Enfin, là, il y a eu énormément en fait, de publicité en ce sens-là. Il me semble qu'ils n'ont même plus le droit aujourd'hui en fait, de faire ces publicités. Mais aujourd'hui, même s'il faut manger plus de végétal, moins d'animal, les produits laitiers, d'une certaine manière, peuvent être une bonne source nutritionnelle. Parce qu'effectivement, bah, c'est de l'eau, il y a des bonnes protéines, on va avoir des bonnes vitamines et des bons minéraux à l'intérieur. Et des élevages vertueux, parce que ça existe, permettent également d'éviter en fait, l'utilisation irraisonnée et raisonnable de substances phyto de synthèse. Donc effectivement, des vaches bien nourries, bien traitées, en élevage extensif, permettent d'utiliser des engrais naturels via les FSS de les bouses de vaches, pour utiliser comme engrais par les producteurs et les éleveurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire que ça. Ça veut juste dire qu'il faut effectivement rationaliser, diminuer, et d'une certaine manière, manger moins de produits laitiers mais de meilleure qualité, manger moins de viande mais de meilleure qualité, bah, paradoxalement, c'est largement mieux pour nos éleveurs en France. Parce qu'en général, quand on mange des lasagnes un peu dégueu, de temps en temps, c'est même pas de la viande de bovine, bah ça vient en général pas de France parce que c'est beaucoup trop cher. Alors que si demain on évite justement tous ces produits de merde ultra transformés, que ce soit des produits laitiers ou même des produits carnés en général, et qu'on se recentre sur une bonne pièce de viande, mais de temps en temps des bons produits laitiers, un bon fromage qui est fait justement par un éleveur et un fromager dans le Cantal, à Roquefort, ou enfin on a énormément de régions extraordinaires en France, donc c'est dommage de manger des produits en poudre ou juste des fromages industriels de piètre qualité. Et si on se concentre justement sur ces types de produits, et ben on va donner notre argent directement en fait à ces producteurs qui font bien les choses, ou en tout cas qui essayent de faire des choses différemment, mieux, et on va justement investir directement. Donc on parle d'acte politique, c'est aussi un acte économique, on finance la transition, justement on finance des élevages plus durables.
C'est exactement même votre principe de super conscience, c'est-à-dire d'être conscient que chaque achat, chaque acte de consommation va avoir un impact positif ou négatif, et c'est à nous de choisir ce qu'on va consommer, quoi.
Et là je vais être très vulgaire, mais effectivement quand on achète à bas coût quelque chose, forcément il y a quelqu'un qui se fait baiser. Voilà, j'étais vulgaire. Pour venir à quelque chose de sérieux, on essaye, et ça c'est une pensée qui est aussi très propre peut-être à l'agronomie et au monde du conseil, c'est d'essayer de réfléchir à l'ensemble des impacts et des enjeux sur la chaîne de valeur, donc vraiment du champ jusqu'à l'assiette. Et effectivement la super conscience, c'est un peu le mot un peu chapeau qu'on a trouvé pour essayer d'adresser ces enjeux sur l'intégralité de la chaîne de valeur. Donc, parce qu'on va voir des risques et des enjeux au niveau de l'amont agricole, donc vraiment la base, donc c'est qu'est-ce qui va être cultivé, comment, pourquoi, par qui, quelles sont les molécules qui sont utilisées et pourquoi. Ensuite, comment ça va être récolté, comment ça va être transporté, d'où ça vient, comment c'est fait, comment ça va être processé au niveau justement industriel ou semi-indus ou même artisanal, quels vont être les éléments supplémentaires, les additifs qu'on va peut-être mettre dans ce produit-là, que ce soit un produit mainstream ou un produit de nutrition sportive, et ensuite bah, l'usage, la consommation réelle, l'utilisation que va faire le consommateur et la fin de vie des emballages qui sont utilisés. Donc c'est tout ça qu'on essaye d'avoir en tête là, et forcément quand on a un produit qui est pas ou peu cher, bah forcément la qualité va être amoindrie. On peut pas se demander d'avoir une viande excellente ou un produit laitier d'une très haute qualité pour finalement une pièce de viande à 1 ou 2 euros, c'est pas possible. Donc le corollaire c'est quoi? C'est que justement on va utiliser des essences ou des céréales qui poussent très vite, avec plein de pesticides pour éviter en fait, pour maximiser les rendements. Mais le problème c'est que du coup on va avoir des problématiques environnementales derrière, et peut-être même de qualité nutritionnelle ou sanitaire liées. Le potentiellement l'éleveur ou le producteur va se faire moins bien rémunérer ou par rapport à ce qu'il devrait avoir. On a quand même en France des éleveurs qui gagnent moins de 600 euros par mois. C'est quand même un non-sens en France. Enfin, de temps en temps, quand on dit ça, on a l'impression que c'est des pays en voie de développement. Ben, quand 600 balles par mois de reste à vivre, c'est quand même pas énorme. Ou même pas de reste à vivre, juste de salaire qu'ils arrivent à se dégager. Et en général, les bonnes marges sont au niveau des industriels. Donc là, pour le coup, ils n'ont pas trop de problèmes. Et enfin, si le produit est peu cher, bah forcément, en fait, d'un point de vue nutritionnel ou de santé, on peut se poser des questions sur l'innocuité de ces produits-là ou sur l'intérêt réel de ces produits-là pour nous, consommateurs.
Je parlais de super conscience, il y a aussi One Health dont on a parlé, etc. C'est un peu des mots chapeaux, des mots valises. Et moi, j'ai le sentiment que les gens, ils ont besoin un petit peu d'avoir ces mots, de réussir à mettre un mot sur des concepts et de ne pas être flou comme avec les termes sobriété, écologie, biodiversité. C'est des termes qui finalement ne veulent plus rien dire aujourd'hui. Même bienveillance dans un certain point. Qu'est-ce que tu penses moi, je pense que je prêche un convaincu, mais est-ce que justement les organismes, les agriculteurs ou même vous qui prônent les bonnes pratiques ou alors qui sont en train d'utiliser les bonnes pratiques, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de communiquer? Est-ce qu'il faut qu'ils vulgarisent ou est-ce qu'il faut que ce soit réservé aux médias? C'est quoi ton opinion là-dessus?
Je pense qu'il y a une méconnaissance des sujets et de plus en plus un flou artistique et un gouffre vraiment réel entre les populations urbaines, périurbaines, ultra-urbaines et finalement les producteurs ou les personnes en région. Typiquement, manger des fruits de saison, quand tu vas en fait dans les campagnes françaises ou même les régions pas forcément très reculées, c'est juste des régions rurales, en fait c'est normal. C'est juste, effectivement, des fraises en janvier, on ne fait pas parce que soit c'est trop cher et puis surtout ça n'a pas de goût. Des tomates, pareil, qui sont élevées sous serre chauffée, non, on ne fait pas, mais parce que juste, ça a goût de flotte, c'est pas bon et on préfère avoir des choses qui ont du goût. On préfère aussi prendre le temps de manger simplement. Alors on va se dire, oui, mais en fait, au niveau de la Startup Nation, on doit aller vite, on doit faire plein de choses, etc. Oui, d'accord, mais en fait, on va manger 3-4 repas par jour, ramener sur une année. Du coup, si tu fais le calcul, on est à peu près à 1200 repas dans l'année. Avaler 1200 fois quelque chose, c'est pas anodin pour ton corps. Et du coup, acheter 1200 fois des choses pour te nourrir, pareil, tu as des impacts, et d'une certaine manière, ton argent va financer quelque chose. Donc il faut que tu saches où part cet argent et qu'est-ce que tu veux réellement défendre. Donc il faut que tu saches si le joli petit label, le joli petit logo avec la petite feuille verte, le petit truc avec marqué clean label, machin, est-ce que c'est vraiment ce vers quoi tu veux aller? Est-ce que c'est vraiment en aligné avec tes valeurs? Est-ce que quand tu vois commerce équitable ou fair trade, etc., est-ce que justement l'argent que tu vas mettre dedans arrive vraiment au producteur? Et ça, en fait, aujourd'hui, y a une méconnaissance des logos, des labels, des sujets, des filières, des secteurs, de la complexité justement des acteurs qui interagissent les uns avec les autres depuis le champ, depuis la parcelle, encore une fois jusqu'à ton assiette ou parfois jusqu'à ton shaker de protéines. Et donc, je pense que la communication ne doit pas être réservée qu'à une certaine catégorie de personnes, en particulier aujourd'hui où on voit aujourd'hui que les métiers de l'influence et du journalisme peuvent, pareil, être un peu flous, où les journalistes n'ont pas forcément une très bonne connaissance technique des sujets. C'est parce qu'on leur demande, mais parfois, de temps en temps, c'est bien de rentrer dans la technique. Et je pense que les premiers qui devraient en parler, ce sont celles et ceux qui font. C'est une des raisons pour lesquelles Inès We Trust, nous, on a encore une fois une certaine légitimité sur certains sujets, mais on ne veut pas aller sur une légitimité sur tous les sujets. C'est pour ça qu'on fait intervenir plein de gens différents. Mais les producteurs, les éleveurs devraient être les premiers justement à prendre la parole, que ce soit en personne, que ce soit via des coopératives ou peut-être même via des marques qu'ils mettent en place. Je pense à pas mal des marques, c'est qui le patron, les marques Bleu Blanqueur, plein de marques en fait qui peuvent être des coopératives ou qui peuvent donner la voix à ces éleveurs-là qui parlent de leur sujet.
Ou alors avoir recours aux médias oiseaux bondissants, évidemment.
Par exemple, là, je pense que c'est le meilleur média qu'il faudrait voir. C'est parce que là, vous avez les deux. Vous avez, grâce à Oiseaux bondissants, vous avez un système tout en un avec une plateforme, avec des agros qui permettent de connaître les métiers et en même temps des personnes techniques qui arrivent à monter et à transmettre les messages.
Okay. En top d'avoir des recommandations précises quand on est sportif ou quand on est plutôt type sédentaire. Comment est-ce que vous faites pour ne pas avoir le syndrome d'imposteur et pour ne pas vous dire ou vous faire dire « Bon, ça va, les deux BG musclés, vous nous donnez des bons conseils, mais c'est pas possible pour moi dans mon quotidien. »
Eh, on est des BG musclés. Donc quand on va faire des articles, c'est, quand on écrit des articles, ils sont issus en fait d'une vulgarisation de l'état de l'art scientifique et des rapports d'ONG et d'associations de consommateurs. Quand on va ensuite faire des vidéos pour parler de ces articles-là, on va faire des vidéos de format très court, 5-10 minutes, et parfois même ultra court, quelques minutes ou 45 secondes, bah forcément on va perdre des informations. Et on essaye de moins en moins d'avoir des raisonnements simplistes, mais c'est très 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 difficile, en particulier sur les formats, ultra courts. Et c'est là où on se dit, en fait, on ne sera pas légitime partout. On essaye de faire raisonner, de donner les clés de lecture aux consommateurs. On essaye de faire intervenir le plus possible des gens différents. Au contraire, pour se dire, bah, en fait, nous, on ne dit rien. On montre en fait des choses, libre à tout le monde de prendre ces choses-là ou de ne pas les prendre. Et surtout, bah, libre à tout le monde de savoir s'il veut. Enfin, on donne la canne à pêche, c'est aux personnes d'aller pêcher le poisson derrière. Ouais.
L'argument, il vient de telle étude, donc si tu as envie de remettre en question cet argument, regarde l'étude, regarde comment elle est faite, et là tu pourras éventuellement attaquer.
C'est un peu ça, et aujourd'hui on peut parfois, heureusement que c'est vraiment juste quelques personnes, on peut être attaqué sur des choses qu'on va dire. Le problème, c'est que c'est sorti du contexte. Ces personnes-là vont prendre quelque chose qu'on va dire sur une vidéo sans prendre en compte le contexte global de ce qu'on fait, dans quoi ça s'incrémente, et surtout potentiellement sans même prendre la peine de lire qui on est, notre but. On n'a aucun but mercantile, c'est pas du tout le but. Notre but, c'est vraiment un rôle totalement pro bono d'élever les consciences et les connaissances globales sur nos sujets, et surtout de lire nos articles. Parce que là, dans une vidéo de 45 secondes, difficile de nuancer. Dans un article de 15 pages, là, effectivement, si on nous dit attention, ce que vous avez dit, c'est pas vrai ou c'est différent, bah là, oui, effectivement, il pourrait avoir raison. Et en l'occurrence, on essaye quand même toutefois de nuancer, de contextualiser.
Donc, InNuts We Trust, c'est un site internet avec des articles sourcés. C'est aussi les réseaux sociaux avec des contenus plus snacking content. Mais c'est aussi et surtout le ScanNuts. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors oui, on peut vous en parler. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur la page concept. C'est un outil effectivement qu'on a monté et qui, dans sa première version en 2018, là c'est dans sa version 2 et puis il y aura bientôt la version 3. Mais en gros, c'est une base de données qui va analyser des produits et qui va donner un score comme au sport. Vous avez dû le voir, avec la nuts d'or, d'argent, de bronze et même la dark nuts, donc la nuts de charbon ou la médaille en chocolat si vous préférez, sur l'ensemble de la chaîne de valeur du produit. Donc on a la méthodologie qui est complètement détaillée et décrite dans un article dédié qui est aussi sur notre site, parce qu'il y a l'ensemble de nos critères pour chaque onglet, que ce soit l'onglet sanitaire, l'écologie, le social ou le nutritionnel. Et puis il y a les pondérations aussi un peu associées, etc. Donc on essaye de donner une visibilité sur la méthodologie, qui est une méthodologie en plus évolutive, c'est-à-dire que les gens, s'ils ne sont pas d'accord avec notre prisme de lecture, ils peuvent nous écrire et puis ils peuvent travailler avec nous pour faire évoluer l'outil. Hein. On s'inscrit dans une démarche collaborative et c'est un outil qui, de toute manière, de fait, évoluera au fil de l'eau. Il évolue au fil de l'eau, mais il évoluera dans les semaines, années à venir. C'est ce qui fait sa spécificité. Et donc du coup, pour le sportif ou pour l'utilisateur, ou le consommateur lambda, l'objectif c'est par rapport à une typologie de produit, donc une pâte à tartiner protéinée ou une pâte à tartiner pas protéinée d'ailleurs, du lait végétal, des oméga 3, de la protéine en poudre, etc. On va avoir un score avec des notes sur l'ensemble de ces critères-là. Et donc du coup, l'objectif, c'est de montrer la réalité du produit, encore une fois à l'instant T, sur la réalité de ce produit-là par rapport à tous ces éléments d'analyse. Et donc chez le consommateur, ça déclenche plutôt, en tout cas déjà, dans un premier temps, une réflexion, et puis après un achat responsable. Parce que y a des gens qui vont avoir une affinité, ils vont dire bon, moi je veux acheter un produit, mais que niveau écologie ce soit vraiment nickel pour qu'il y ait la plus petite empreinte carbone. Donc il va avoir la nuts d'or sur l'onglet écologie, et donc là je vais sélectionner cet outil. Et puis il y en a qui vont vouloir avoir de la nuts d'or partout et qui vont plutôt se diriger vers ce produit là. C'est un peu à la carte finalement. Mais encore une fois, l'objectif, c'est de mettre en valeur les marques qui proposent des produits qui s'inscrivent en tout cas dans une démarche durable et à l'inverse, de montrer aussi les produits qui doivent encore s'améliorer. Parce que nous, on met le curseur, on ne dit pas que c'est super bien et que c'est vraiment de la merde. On dit juste que là, on a un produit qui est sympa et là, on a un produit qui devrait, en tout cas au niveau de la marque, faire son possible pour s'améliorer et justement grappiller des petits échelons pour arriver sur la troisième, deuxième et puis première marche du podium.
La création de cet outil, du ScanNuts, a fait écho à deux problématiques qu'on a vues. La première, c'était de se dire, pendant un ou deux ans, on a, nous, avec nos articles, certaines conférences ou certaines prises de parole, on disait « faites attention à certains enjeux et impacts ». Mais du coup, les personnes nous disaient « Ok, maintenant que je connais les risques, je connais les enjeux, mais du coup, je prends quoi ?» Et de temps en temps, on se retrouvait un peu bête, parce qu'on se disait « Ouais, mais en fait, si tu prends cette protéine-là ou ce complément alimentaire, attention, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Mais même pour nous, on pouvait être un peu perdu avec tout ça. Donc il a fallu en fait nous poser sur des critères, on est sur un peu plus d'une quarantaine de critères qui sont investigués pour chaque typologie de produits. Donc Hugo l'a cité, ça peut être des barres protéinées, ça peut être des poudres, des protéines, ça peut être des pâtes à tartiner, des chips protéinées. Enfin, aujourd'hui, le milieu de la nutrition sportive est quand même assez fertile et très imaginative sur ce type de produit, donc on essaye de montrer ça. Le deuxième enjeu, c'était de proposer aussi, du coup, une vision objective de la réalité quand même de ce qu'on achète, parce que c'est des produits qui coûtent quand même assez cher parfois, donc il faut voir s'il y a un vrai intérêt derrière, surtout sur un milieu qui était assez, encore une fois, pas adressé par ça. Aujourd'hui, on a Yuka sur des produits de la nutrition classique. Le but, c'est pas de faire un Yuka. Déjà, nous, on a une vraie méthodologie scientifique derrière. Et paf, Yuka. Mais surtout, en fait, nous, l'objectif, c'est de faire de l'open source. C'est d'arriver à, comme disait Hugo, d'ouvrir un petit peu cette méthodologie, ces critères, et surtout de se dire que, encore une fois, on n'est pas forcément légitime sur tout. On n'a pas ce syndrome de l'imposteur. Il est forcément tout le temps là chez nous. Si des personnes arrivent en nous disant on peut améliorer, rendre beaucoup plus robuste votre outil et votre méthodo et votre algorithme, ce serait génial justement, parce que l'objectif c'est pas d'avoir un outil parfait n'existerait pas, mais on peut s'en approcher.
Et d'ailleurs, juste pour finir là sur ce que dit Ben, c'est là où c'est paradoxal, c'est-à-dire que depuis le début, parce que c'est lancé quand même depuis 2018, il y a beaucoup de gens qui critiquent et il y a peu de gens en fait qui nous apportent leur aide, alors que nous justement on milite pour vous voulez participer à l'aventure, venez nous aider. Littéralement, il y a qu'une personne en fait qui nous a aidé, qui est Mathieu Guichou, qui est le développeur qui nous aide à développer certaines choses sur le site et qui donne de son temps gratuitement comme nous on le fait pour Inet Sweet Trust, mais depuis 2018, il y a eu une seule personne, en fait. Voilà. Donc, c'est là aussi où on veut en venir. C'est-à-dire que c'est bien de dire « Ouais, c'est pas très bien, c'est nul, ou ça pourrait être mieux et tout », mais d'accord, mais venez, en fait, et travaillez avec nous et proposez, voilà, même si c'est qu'une heure par semaine, c'est déjà qu'une heure par semaine, et on fera évoluer le truc, il n'y a aucun souci avec ça.
Ouais, le message, finalement, c'est vous voulez vous en sortir, vous voulez améliorer les conditions, nos conditions de vie, notre avenir, faites quelque chose, arrêtez de critiquer.
Surtout qu'on propose quelque chose de gratuit. Peut-être que demain, on aura un business model et on se dira qu'on va vendre quelque chose. Aujourd'hui, c'est pas forcément ni le but ni l'envie. En tout cas, notre objectif, c'est clairement pas que ce soit notre métier. On fait ça par passion. Certaines personnes vont faire de la peinture, d'autres des assos. Nous, on fait une Sweet Trust qui nous prend un peu de temps sur notre temps personnel.
Qui vous coûte un peu d'en sortir, vous voulez...
Qui nous coûte également de l'argent parce qu'effectivement, on a fait le choix en fait d'être une entreprise, une SAS, de pas être sous un fonctionnement de l'associatif, de pas forcément avoir des subventions publiques et de vivre justement sur nos propres deniers là-dessus, ou potentiellement des marques qu'on pourrait accompagner qui pourraient nous aider d'un point de vue financier avec ces conseils qu'on leur a prodigués. Donc c'est le choix du SAS qui a un coût, on a un expert comptable, on a des frais de gestion sur le site, voilà, il y a plein de choses en fait qui font que c'est des sources de coûts pour nous, mais c'est des choses qu'on fait en fait d'une certaine manière avec plaisir. Et quand on arrive justement et qu'il y a des gens qui nous disent ça pourrait être mieux, effectivement, alors oui, il y a plein de choses qui pourraient être améliorées. Le problème, c'est le temps qu'on a aussi, en fait, à un moment donné, nos connaissances. C'est que Hugo et moi, on est très bons sur certaines choses. Enfin, du coup, j'espère. On a, grâce à Mathieu, une expertise sur du dev et c'est génial. Mais derrière, si demain, on veut mettre en place une vraie appli sur smartphone, là, il faudra vraiment du temps et surtout un petit billet pour mettre en place ça. Ou alors, si des personnes, justement, sont très intéressées et veulent faire du mécénat pour ça, contactez-nous.
Je trouve qu'on ressent bien votre formation d'ingénieur dans le concept même du ScanNuts, pardon, parce qu'on dirait vraiment un outil d'aide à la prise de décision qu'on peut donner dans un contexte de développement territorial, en fait.
Oui, mais c'est un outil d'aide à la décision. Hein. C'est juste qu'on est à l'échelle du consommateur et, comme on le disait au début, on est au stade de la réflexion. Voilà. Donc, ScanNet, c'est fait pour apporter, pour déclencher déjà la réflexion de attention, est-ce que le produit que je vais acheter est responsable par rapport aux quatre critères ? Et la visibilité que l'outil va me donner sur tel ou tel produit, ben justement, va faire que le consommateur va se positionner sur tel ou tel produit et donc va se responsabiliser sur son acte d'achat. Et là, pour nous, ben, c'est gagné en fait.
Et sur Yuka, une barre feed, c'est score A, et puis sur les notes, scan notes, c'est...
C'est la noce de charbon.
Oui, parce que justement, le souci, c'est qu'on ne fait pas que attention à la nutrition, on fait attention, comme disait Hugo, sur trois autres très gros volets du développement durable en général. Bah, forcément, la santé, qui a décorrélé de la nutrition, parce que d'un point de vue nutritionnel, une barre protéinée peut être très bonne parce qu'elle va être très riche en protéines, enfin aux yeux en tout cas des personnes qui vont faire les produits ou du consommateur qui veut des protéines. Ok, super, il y a des protéines. Mais et en plus de ça, on va enlever le gras. Donc on va enlever le gras, on va enlever du sucre. Mais le corollaire de ça, c'est pour avoir un produit qui reste gourmand et qui se tient, bah, si on enlève le gras, on va mettre des texturants. Si on va enlever le sucre, on va mettre aussi bah, des édulcorants. Ces types de produits peuvent poser question sur leur innocuité, sur notre santé. Et les protéines qu'on va utiliser, en général, ça va être des protéines, c'est des ingrédients craqués, dont la qualité nutritionnelle ou sanitaire, du coup, voilà, est pas excellente non plus en termes d'apport, par exemple, en qualité et en quantité d'acide aminés, notamment essentiels. Et à côté de ça, bah, si c'est des aliments, des ingrédients ultra transformés, il va y avoir énormément d'énergie qui vont être faits pour les produire dans des emballages en général uniques, non recyclables et de temps en temps non recyclés. Donc d'un point de vue environnemental, pas top. Et comme on le disait aussi au cours du podcast, bah, la partie sociale également est à questionner, parce que si les matières premières coûtent pas cher, bah, forcément le producteur et l'éleveur n'ont pas eu énormément d'argent justement pour sanctionner leur travail.
Pour conclure notre échange, j'avais envie de prendre une phrase qui est sur votre site. C'est « Les choses avancent, donc, mais lentement ».
Le changement est très long, mais pour faire en sorte que ce changement soit réellement ancré dans nos pratiques et nos habitudes, il faut aussi prendre le temps. Malheureusement, ce temps-là, parfois, quand on voit les rapports du GIEC, quand on voit certains rapports d'ONG sur les situations de déforestation, sur les situations de non-respect des droits humains dans certaines régions du monde, pas forcément si éloigné que ça. On se dit qu'il y a urgence à agir. Enfin, les changements des comportements prennent du temps et ancrer des habitudes justement dans le conscient collectif également. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire depuis le début, on essaye de pas non plus hyper culpabiliser le consommateur, mais de mettre un bon gros coup de pied aux fesses de certains industriels, parce que c'est eux qui sont à l'origine de certains imaginaires qui sont à déconstruire. Le fait de prendre des protéines pour avoir du muscle, le fait d'être obligé de prendre des ingrédients qui viennent de l'autre bout du monde pour avoir un côté un peu exotique ou un truc un peu sympa, différent, disruptif, on l'appelle comme on veut, dans le bol alimentaire. Non, il faut déconstruire ça. Revenir sur des choses qui sont des produits de saison, des produits non transformés, effectivement, c'est pas sexy, entre guillemets. Et en même temps, est-ce qu'on a besoin de faire en sorte qu'une fraise soit sexy, qu'une pêche soit sexy ? Non, on a juste besoin en fait qu'elle nous nourrisse et qu'elle nous apporte des bienfaits nutritionnels classiques.
Et Hugo, est-ce que tu peux nous faire une recommandation culturelle ?
Oui, alors je peux en faire deux même. Déjà, il y a un premier bouquin, je l'ai découvert parce que vous connaissez certainement l'influenceur Bon Pote, qui parle d'un sujet pas cool qui est le climat, enfin le réchauffement climatique. Et du coup, il a coécrit donc aux éditions CNRS Éditions un livre qui s'appelle Tout comprendre ou presque sur le climat, voilà, qui est celui-là. Et franchement, j'ai vraiment bien aimé ce livre. Alors moi, j'avais quand même, parce que dans mes études de géographie, j'ai fait de la climatologie, etc. Donc j'avais quand même des notions. Mais là, ce qui est cool, c'est que en fait, c'est un peu sous forme de BD. C'est-à-dire qu'il y a des petits dessins et tout sympa, il y a les enjeux qui sont bien vulgarisés, etc. Et on comprend tout, c'est-à-dire qu'est-ce que le réchauffement climatique, qu'est-ce que un consensus scientifique, etc. Ça se lit très bien, ça se lit très vite, on peut revenir tout le temps dedans quand on oublie quelque chose. Et surtout, ça permet aussi de répondre un peu aux amalgames et aux raccourcis de la société civile sur le climat. On sait déjà pas la météo de demain, alors le climat, on sait encore moins, tu vois, ce genre de choses. Et j'ai trouvé ça vraiment super sympa parce que au-delà d'un bouquin, c'est vraiment un outil qui peut vraiment servir presque au quotidien. Voilà. Et le deuxième sujet que j'ai envie d'aborder, c'est une série que j'ai regardée il n'y a pas très longtemps, qui est toujours disponible sur Arte TV, donc en replay, c'est totalement gratuit, qui s'appelle Jeu d'intention. Et en fait, ça met en exergue, alors il y a l'onglet agricole avec les coopératives laitières et le fait de justement utiliser des pesticides pour améliorer les rendements, etc. Voilà. Il y a d'un autre côté les lobbies qui vendent justement les produits phytosanitaires et d'un autre côté les politiques, notamment les députés qui sont en charge en fait de rédiger les lois, en fait de proposer les lois justement pour faire interdire en fait certains de ces pesticides qui sont dangereux parce qu'il y a des labos indépendants qui ont montré justement le lien de cause à effet sur des cancers, des leucémies en tout cas, donc les cancers du sang là chez certains agriculteurs. Et en fait, donc c'est en deux saisons, c'est des acteurs super connus en plus puisqu'il y en a qui sont de la Comédie Française et c'est super bien foutu et franchement, dès le premier épisode, on rentre dedans et on a envie de savoir la fin. C'est une série française et ça montre vraiment toutes les interactions pour comprendre pourquoi il y a autant de difficultés pour les pouvoirs publics justement, même quand il y a des très bonnes intentions au sein même des pouvoirs publics pour faire appliquer les lois. Parce que bah derrière, il y a des puissants et, qui, justement, mettent tout en œuvre pour bah mettre des bâtons dans les roues de ces gens-là. Voilà. Donc, vraiment, super, super série que je recommande. Jeu d'intention.
Trop cool. Et toi, Ben, est-ce que tu as une recommandation culturelle ?
Moi, je suis pas mal un journaliste qui est dans la maison du Monde, qui s'appelle Stéphane Foucard, qui, depuis, il me semble, un peu plus de 10 ans aujourd'hui, va parler des molécules qui peuvent nous embêter un petit peu. Donc, il parle sur les pesticides, sur les produits phytosanitaires en général. Il va parler aussi des perfluorés. En fait, il permet de faire une vraie investigation, et c'est assez rare encore aujourd'hui pour qu'on puisse le souligner, qui... ce ne sont pas des reportages ou des articles à charge, mais au contraire, c'est vraiment des articles où il va dans le fond des choses, il va aller parler à des acteurs qui s'y connaissent, des professionnels, il va justement réussir à faire la part des choses entre un message un petit peu à charge d'une ONG ou d'une association de consommateurs et la réalité scientifique. Et il va aussi se poser des questions et nous amener à nous conduire aussi sur certaines questions, sur, encore une fois, l'innocuité sanitaire de certaines molécules, l'utilité de certaines molécules, et du coup, de fait, est-ce qu'on en a réellement besoin? Donc ça, je trouve que c'est assez sympa, et il fait des podcasts, mais c'est surtout, les articles sont quand même très intéressants, et surtout rebondissent sur des choses qui sont aujourd'hui un peu invisibles. Et la deuxième personne que j'aurais en tête, c'est très masculin malheureusement, ça va être Anthony Fardet, qui est aujourd'hui chercheur plutôt sur de l'alimentation, qui va théoriser comme alimentation vraie. Il fait partie il me semble du conseil scientifique de l'application SIGA, qui a pour but en fait d'arriver à voir et à traquer les ingrédients et les aliments ultra transformés. Et il a théorisé la règle des 3V, donc manger vrai, varié et végétal. Et ça permet justement d'une certaine manière de théoriser le fait qu'un ingrédient n'est pas qu'une somme de nutriments ou de calories, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Être réductionniste et justement de se dire je vais prendre tel nutriment ou tel complément pour avoir ces nutriments-là, mais c'est cool parce que j'aurais mangé une pomme, j'aurais aussi les mêmes vitamines. C'est pas aussi simple que ça, parce que justement, quand tu manges une pomme, tu vas manger la matrice, tu vas manger des fibres, tu vas manger certaines choses en fait que tu n'auras pas si tu prends des compléments juste simples. Donc je trouve ça assez intéressant là-dessus aussi, et puis ça permet pareil, d'avoir des réponses un peu opérationnelles parfois. Voilà.
Et Hugo, est-ce que toi aussi tu peux nous recommander un invité ?
Ouais. Julien Vénesson, donc qui est journaliste scientifique, qui a écrit plusieurs ouvrages, dont un que je vous ai présenté tout à l'heure, donc Nutrition de la Force, Paléonutrition, le deuxième volet de Nutrition de la Force qui va sortir, puisqu'il a augmenté son ouvrage, qui propose toute une série d'articles sur son site, julienvénesson.fr, et franchement, je pense qu'il a beaucoup à dire, surtout qu'il a monté son propre laboratoire, donc qui s'appelle UNAE, et je pense que ça serait un super, super invité.
Ouais, et du coup, à part le site internet, où est-ce qu'on peut vous suivre ?
Alors sur Instagram pour le plus gros du réseau social, donc sur @inatsweetrust.fr. Sinon, on a un compte TikTok aussi, on a une mini chaîne YouTube, mais on publie rien dessus pour l'instant parce qu'on n'a pas le temps. Et Facebook aussi, il y a la page Facebook. Voilà, on est à peu près sur ces réseaux-là.
Bon, merci beaucoup les Nuts.
Merci beaucoup à toi.
Et voilà, cet épisode de Poids Plume est déjà terminé. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Maintenant, on a besoin de vous. Partagez l'épisode autour de vous pour nous aider à avoir plus d'impact. C'est pour ça qu'on fait ces contenus. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Poids Plume, le podcast qui raconte la Terre. Salut !